10. Le dortoir respirait encore l'arôme éventé d'anciennes épices, la cannelle et le girofle. Jake se demanda, de manière périphérique et distraite, si les tombeaux sous les pyramides avaient la même odeur lorsque les premiers explorateurs les avaient profanés. En haut, dans le coin, le squelette sur sa couchette lui adressait un grand sourire, comme pour lui souhaiter la bienvenue. « Envie d'un petit somme, petit fouineur ? Moi, je fais une grosse sieste. » Dans sa cage thoracique scintillaient des toiles d'araignées soyeuses, et Jake se demanda toujours distraitement combien de générations de bébés araignées étaient nées dans cette cavité. Sur un autre oreiller reposait une mâchoire qui fit remonter du fond de sa mémoire un souvenir spectral et abominable. Autrefois, dans un monde où Jake était mort, le pistolero avait trouvé une mâchoire comme celle-là, et il l'avait utilisée. L'esprit de Jake était surtout préoccupé par deux questions qu'il se posait froidement et par une résolution qu'il avait prise encore plus froidement. Les questions étaient de savoir combien de temps il leur faudrait pour arriver jusqu'ici et s'il découvrirait ou non son poney. Si Slightman avait été lui-même à cheval, Jake était certain que le gentil petit poney aurait poussé un hennissement de bienvenue. Heureusement, Slightman était à pied, comme la dernière fois. Et Jake serait venu à pied lui-même s'il avait su que son but se situait à 1 kilomètre à peine du fleuve. Mais lorsqu'il avait quitté le Rocking Bee, il n'était même pas certain d'avoir un but. Sa résolution, c'était de tuer aussi bien l'homme de fer que l'homme de chair s'il était découvert. S'il le pouvait, bien entendu. Andy lui donnerait peut-être du mal. Mais ses yeux de verre bleu qui lui sortaient de la tête avaient tout l'air d'un point faible. S'il pouvait l'aveugler. « Il y aura de l'eau, si Dieu le veut, » lui dit le pistolero, qui désormais ne quittait plus sa tête pour le meilleur et pour le pire. « Ton boulot, maintenant, c'est de te cacher où tu le pourras. »« Où ?»« Pas sur les couchettes. » Elles étaient toutes visibles depuis le moniteur qui montrait cette pièce, et en aucun cas, il ne pouvait incarner un squelette. « Sous l'un des deux lits superposés à l'arrière ?» Risqué, mais ça pourrait marcher. À moins que... Jake aperçut une autre porte. Il se précipita, appuya de tout son poids sur la poignée, et la porte s'ouvrit. C'était un placard, et les placards faisaient de bonnes cachettes, mais celui-ci était plein à craquer de vieux équipements électroniques poussiéreux. Une partie dégringola à l'extérieur.
« Bon sang !»
lâcha-t-il doucement, de l'urgence dans la voix. Il ramassa ce qui était tombé, le fourra tant bien que mal dans le placard et referma la porte. « Ok. Alors ça serait sous l'un des... »«
Bienvenue à l'avant-poste 16 de l'arc du cadran !» tonna la voix enregistrée.
Jake tressaillit. Il aperçut une nouvelle porte, sur la gauche cette fois, et entrebâillée. Essayer la porte, ou se glisser sous un de ses lits à l'arrière. Il n'avait pas le temps de tenter les deux planques.
« Ceci est un avant-poste de sécurité moyenne. »
Jake opta pour la porte, et il fit bien d'agir vite, car Slightman ne laissa pas à la bande le temps de dérouler tout son message.
« 99 !»
lança sa voix dans les haut-parleurs.
La voix synthétique le remercia.
C'était encore un placard. Vide à l'exception de quelques chemises moisissant dans un coin et d'un poncho maculé de boue séchée accroché à un clou. L'air était presque aussi poussiéreux que le poncho lui-même, et Otte émit 3 éternuements délicats sitôt qu'il mit une patte dans le placard. Jake s'agenouilla et passa le bras autour du cou fin d'Otte.
Plus de ça, à moins que tu veuilles nous faire tuer tous les deux.
Tais-toi, Otte.
« Tais-toi, Otte !»
chuchota le bafouilleux en lui adressant un clin d'œil. Jake tendit le bras et tira la porte vers lui, la laissant entrebâillée de quelques centimètres comme elle l'était avant. « Enfin » espérait-il. 11. Il les entendait très distinctement, trop distinctement. Jake comprit que tout le bâtiment était truffé de micros et de haut-parleurs, ce qui n'arrangea en rien son état de nervosité. Parce que si Otte et lui pouvaient les entendre, eux, ils discutaient des cactus, ou plutôt Slightman discutait des cactus. Il les surnommait les bras agités, et il voulait savoir ce qui les avait autant excités.
« Des chats des roches, à n'en pas douter, Sai !» répondit Andy de sa voix condescendante et légèrement efféminée.
Eddie disait qu'Andy lui rappelait un robot qui s'appelait C-3PO dans La Guerre des Étoiles, un film que Jake avait attendu avec impatience. Il l'avait raté à moins d'un mois.
« C'est la saison des amours pour eux, vous savez. »«
Rien à foutre, » avait répondu Slightman. Tu essaies de me dire que les bras agités ne distinguent pas les chats des roches de quelque chose qu'ils peuvent attraper et manger? Quelqu'un est passé par là, je te le dis, et il n'y a pas si longtemps.
Une pensée glaciale traversa l'esprit de Jake. Avait-il vu de la poussière sur le sol du Dogan? Il avait été trop occupé à contempler les écrans pour regarder. Si Otte et lui avaient laissé des traces, ces deux-là l'avaient sans doute déjà remarqué. Peut-être faisait-il seulement semblant de discuter des cactus, tout en se dirigeant vers le dortoir. Jake sortit le rugger de son crampon de débardeur et le tint dans sa main droite, le pouce sur la sécurité.
« Une conscience coupable fait de tout homme un lâche !»
débita Andy de sa voix complaisante, d'un air de dire
« J'ai cru que ça vous intéresserait de le savoir. »
« C'est une adaptation personnelle de la ferme, sac à boulons !» lâcha Slightman d'une voix hargneuse. « Je... » Puis il poussa un hurlement. Jake sentit Otte se raidir contre lui et sa fourrure se dresser sur son échine. Le bafouilleux se mit à gronder. Jake glissa une main autour de son museau.
« Lâche-moi !» hurla Slightman. « Lâche-moi !»
« Bien sûr, Sai Slightman, » répondit Andy, à présent plein de sollicitude. « Je n'ai fait que pincer un petit nerf au niveau de votre coude, vous savez. Il n'y aurait aucun dégât durable, sauf si j'y appliquais une pression de 20 pieds par livre. »
« Et pourquoi tu ferais une chose pareille, bon Dieu ?» gémit Slightman, presque pleurnichard. « Est-ce que je ne fais pas tout ce que tu veux, et même plus ? Est-ce que je ne risque pas ma vie pour mon garçon ?»
« Sans oublier quelques petits avantages, » corrigea Andy d'une voix suave.
« Vos lunettes, cette machine à musique que vous gardez tout au fond de votre sacoche. »
Et, bien sûr,
tu sais pourquoi je le fais, ce qui m'arriverait si j'étais découvert, fit Slightman.
Il avait abandonné les pleurnicheries, il avait pris un ton digne et un peu las. Jake écouta sa voix avec un désespoir croissant. S'il s'en sortait et qu'il devait dénoncer le pas de Benny, il voulait dénoncer un traître.
Oui, là, j'ai accepté quelques avantages, tu dis vrai. Je dis grand merci, des lunettes, pour mieux voir le visage de ceux que je trahis, ceux que je connais depuis toujours. Une machine à musique, pour ne pas avoir à écouter toute la nuit cette conscience dont tu me rabats sans cesse les oreilles, et pour pouvoir dormir. Et puis, tu viens me pincer le bras et j'ai l'impression que mes rizza d'yeux vont me tomber de ma rizza de tête.
J'accepte de tous les autres, dit Andy d'une voix changée. Une fois encore, Jake repensa à Blaine, ce qui ne fit qu'augmenter son désarroi. Que se passerait-il si Tian Jafford s'entendait cette voix, et Von Eisenhart, Overholzer et tous les autres Falcon?
Il me considère avec mépris et jamais je n'exprime une parole de protestation sans parler de lever la main sur eux. Viens ici, Andy, va là-bas, Andy, fais taire tes chansons stupides, Andy, arrête tes jacasseries, on ne veut pas tes prédictions, on ne veut pas les entendre. Alors je ne dis plus rien, sauf ce qui concerne les loups, parce que ce qui les rend tristes, ils veulent bien l'entendre, alors je leur dis...
Ça, oui, pour moi, chaque larme est une goutte d'or. T'es rien d'autre qu'un tas de fils stupides, ils disent. Dis-nous plutôt le temps qu'il va faire, chante une berceuse au babé, et puis après, fiche-moi le camp d'ici. Et je les laisse faire. Quel idiot, c'est Andy, c'est le jouet des gosses, toujours la proie facile pour les injures. Mais je n'accepterai pas d'injures de vous, Sai. Vous espérez avoir un avenir à la cala quand les loups en auront fini pendant encore quelques années, n'est-ce pas? Tu suis un coui, répondit Slightman à voix si basse que Jake l'entendit à peine. Mais je le mérite. Vous et votre fils, dites tous les deux grand merci de pouvoir finir vos jours à la cala. Dites tous les deux comme Allah. Et c'est possible. Mais ça ne dépend pas seulement de la mort des habitants du monde de l'extérieur. Ça dépend de mon silence. Si vous le voulez, j'exige le respect. C'est absurde, fit Slightman après une courte pause. Depuis sa cachette dans le placard, Jake approuva de bon cœur. Un robot qui exigeait le respect, c'était bel et bien absurde. Mais pas plus qu'un ours géant faisant sa ronde dans une forêt vide, qu'une brute morloque essayant de percer les mystères des ordinateurs dipolaires, ou encore qu'un train qui ne vivait que pour résoudre des devinettes. De plus, écoute-moi, je te prie. Comment je pourrais te respecter quand je ne me respecte pas moi-même? Il y eut un cliquetis mécanique très bruyant. Jake avait entendu Blaine émettre un son comparable quand il avait senti l'étau de l'absurde se refermer sur lui, menaçant de faire griller ses circuits logiques. Puis Andy répondit « Aucune réponse, 19. Connectez-vous et faites votre rapport, Sai Slightman. Qu'on en finisse. » Très bien. Pendant une trentaine de secondes, il n'y eut plus que le bruit des touches d'un clavier, puis un sifflement aigu et stridulant qui fit grimacer Jake et grogner Otte. Jake n'avait jamais entendu un son pareil. Il venait du New York de 1977, et le terme « modem » n'avait aucun sens pour lui. Le sifflement s'interrompit brusquement. Il y eut un temps de silence, puis « Ici, Agulciento Finley Otego. Veuillez donner votre mot de passe. Vous avez disque samedi, » répondit Slightman. Et Jake fronça les sourcils. Avait-il jamais entendu ce mot charmant de ce côté-ci? Il lui semblait bien que non. « Merci. Agulciento vous reçoit. Vous êtes en ligne. » Il y eut un nouveau sifflement, bref et strident. Au rapport, samedi. Slightman raconta qu'il avait vu Roland et le jeune se rendre à la grotte de la porte, où il y avait maintenant une espèce de porte, probablement amenée là par les manies. Il dit qu'il avait utilisé le porte-vue et que par conséquent, il les avait bien vus. Le télescope, le corrigea Andy, revenu à son ton condescendant et efféminé. On appelle cet engin un télescope. Tu veux faire mon rapport à ma place, Andy? Demanda Slightman, sarcastique.
J'implore votre pardon, fit Andy d'une voix douloureuse. Mille pardons, continuez, continuez, à votre guise.
Il y eut une pause. Jake imaginait Slightman en train de jeter un regard noir au robot, regard qui aurait perdu de sa férocité car Slightman devait tendre le cou. Il finit par poursuivre son rapport. Ils ont laissé leurs chevaux en bas, ils sont montés à pied. Ils portaient un sac rose qui passait de main en main comme s'il était lourd. Je ne sais pas ce qu'ils trimbalaient, c'était carré. Je voyais les coins dans le sac, en regardant dans le porte-vue télescope.
Je peux faire deux suggestions ?
Oui.
Premièrement,
ils ont dû mettre deux ou trois des livres les plus précieux du père à l'abri, si c'est le cas. Peut-être qu'un loup devrait être envoyé pour les détruire, une fois la mission principale accomplie.
Pourquoi ?
La voix était parfaitement froide, pas une voix humaine, en conclut Jake. Cette voix lui faisait peur et l'affaiblissait.
Eh bien, pour faire un exemple, ne vous déplaise, répondit Slightman comme si c'était une évidence. Que ça serve de leçon au prêtre.
Callahan ne sera bientôt plus en mesure de recevoir de leçons, dit la voix.
Quelle est votre seconde suggestion ?
Lorsque Slightman reprit la parole, il avait l'air secoué. Jake espérait que ce salopard de traite était réellement secoué. Il protégeait son fils, son seul fils, d'accord ? Mais s'il croyait que ça lui donnait le droit, eh bien, c'était des cartes. Je réfléchis à ça depuis bien long et je me dis qu'un homme qui a des livres a sans doute aussi des cartes. Il leur a peut-être donné des plans des régions de l'Est avec un itinéraire vers Tonfoudre. Ils n'ont pas cherché à cacher que c'est là qu'ils projettent d'aller ensuite. Si ce sont des cartes qu'ils ont emportées là-bas, grand bien leur fasse, même s'ils survivent. L'année prochaine, le nord sera l'est, et celle d'après, il changera de place avec le sud.
Dans l'obscurité poussiéreuse du placard, Jake visualisa soudain Andy, en train de regarder Slightman faire son rapport.
Slightman, les yeux bleus électriques d'Andy jetant des éclairs. Slightman ne le savait pas. Personne à la Cala ne le savait, mais ce clignotement rapide était chez le DNF 44-821-V63, l'expression de l'humour. En fait, il était en train de se moquer de Slightman.
« Parce qu'il n'est pas dupe, »
se dit Jake.
« Parce qu'il sait ce qu'il y a réellement dans ce sac. Je parierais un paquet de biscuits qu'il le sait. »
Pouvait-il en être certain ? Était-il possible de faire usage du Shining sur un robot ?
S'il peut penser, lui dit le pistolero dans sa tête, alors tu peux l'atteindre par le Shining.
Eh bien, peut-être.
Quoi que ce soit qu'il transportait, ça prouve bien qu'ils ont l'intention d'emmener les gosses dans les Aloyos, disait Slightman.
Non, ils vont même les mettre dans cette grotte-là.
« Non, non, pas cette grotte-là, » dit Andy, et bien que sa voix fût toujours aussi sérieuse, Jake imagina ses yeux qui clignotaient de plus en plus vite, qui palpitaient presque.
« Il y a trop de voix dans cette grotte-là. Elle ferait peur aux enfants. Mon salaud !»
Le robot messager DNF 44-821-V63, messager.
On pouvait accuser Slightman de trahison, mais comment en accuser Andy ? Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il était, lui avait été imprimé sur la carcasse, visible de tous. C'était là depuis le début, sous leurs yeux à tous. Grand Dieu !
Pendant ce temps, le pas de Benny progressait laborieusement et d'une voix impassible dans son rapport à Finley Otego qui se trouvait dans un lieu du nom d'Agul Siento.
La mine qu'il nous a montrée sur la carte des Tavery, c'est la Gloria. Et la Gloria est à moins de 2 kilomètres de la grotte des Voix. Mais ce salopard est gâche.
Je peux suggérer quelque chose ?
Oui.
L'arroyo qui mène à la mine Gloria, il bifurque vers le sud au bout d'environ 400 mètres. Il y a une autre vieille mine au bout de ce chemin. La Plume Rouge 2, elle s'appelle. Leur Dean raconte aux gens qu'il veut mettre les gosses dans la Gloria, et je pense qu'il leur dira la même chose à la réunion qu'il va convoquer plus tard dans la semaine, celle lors de laquelle il demandera la permission de combattre les loups. Mais ce que je crois, c'est que leur venue, il les mettra dans la Plume Rouge à la place. Il fera monter la garde aux sœurs d'Olitsa, devant et au-dessus aussi. Et vous feriez bien de ne pas sous-estimer ces dames.
Combien ?
Je dirais 5 s'il prend Sally Adams. Plus des hommes avec des bas. Et il va faire lancer la marronne aussi. Et j'ai entendu dire qu'elle était bonne. La meilleure, peut-être bien. Mais, de toute manière, on sait où seront les gosses. C'est une erreur de les mettre là-bas, mais il n'en sait rien. Il est dangereux, mais son esprit se fait vieux. Peut-être que ce genre de stratégie lui a réussi, avant. Et c'était le cas, bien sûr. À Veru Canyon, contre les hommes de Latigo.
Le plus important maintenant, c'est de découvrir où ils seront, lui, le jeune et le gamin, quand les loups viendront. Il le dira peut-être à la Réunion, dans le cas contraire. Il le dira peut-être à Eisenhart, après.
Ou à Overholser.
Non, Eisenhart est de leur côté. Overholser, non. Vous devez découvrir où ils seront.
Je sais, répondit Slackman. On trouvera, Andy et moi, et alors on fera un dernier voyage dans ce maudit trou. Après ça, je le jure par Dame Oritza et par l'homme Jésus, j'aurai fait mon dû.
Maintenant, on peut partir d'ici ?
Dans un instant, Sai, intervint Andy, j'ai moi aussi un rapport à faire, vous savez ? Il y eut à nouveau un long sifflement. Jake attendit que ce fût fini en grinçant des dents. Finley Otego se déconnecta.
« On a fini ?» demanda Slightman.
« Sauf si vous avez une bonne raison de traîner dans le coin, je dirais que oui. »«
Est-ce que quelque chose ici te paraît différent ?» demanda soudain Slightman. Et Jake sentit son sang se figer.
« Non, » répondit Andy. « Mais j'ai un grand respect pour l'intuition humaine. » « Avez-vous une intuition, Sai ?»
Il y eut une pause qui parut à Jake durer une minute entière, même s'il savait que ce n'était probablement pas le cas. La tête dotée appuyée sur sa cuisse, il attendit.
« Non !» finit par dire Slightman. « Je dois juste être un peu nerveux parce que la date approche. »
« Mon Dieu, comme je voudrais que ça soit déjà fini, j'ai horreur de tout ça. »«
Vous faites ce qu'il faut, Sai. » Jake ne savait pas l'effet produit sur Slightman, mais l'accent plein de compassion maniérée d'Andy lui donna envie de montrer les dents. « La seule chose à faire, en fait, ce n'est pas votre faute si vous êtes le père du seul jumeau dépareillé de Calabrian Sturgis, si ?» Je connais une chanson qui montre ce dilemme de manière particulièrement touchante. Peut-être voudriez-vous l'entendre.
La ferme !
S'écria Slightman d'une voix étranglée.
La ferme, espèce de diable mécanique ! J'ai vendu mon âme, bon sang, ça ne te suffit pas ! Il faut en plus qu'on se rie de moi !
Si je vous ai offensé. « Je vous prie de m'excuser du fond de mon cœur hypothétique. En d'autres termes, j'implore votre pardon. » Il avait l'air sincère, comme s'il le pensait jusqu'au dernier mot, doux comme si du miel allait couler de sa bouche. Pourtant, Jake était absolument certain que les yeux d'Andy lançaient des éclairs bleus comme de grands éclats de rire silencieux.
12.
Les conspirateurs se retirèrent. Les haut-parleurs au-dessus d'eux émirent une sorte de petite mélodie étrange et absurde, absurde pour Jake en tout cas. Puis ce fut le silence. Ils s'attendaient à ce qu'il découvre son poney, à ce qu'il revienne le chercher lui, le trouve et le tue. Lorsqu'il eut compté jusqu'à 120 et constaté qu'il n'était toujours pas revenu, il se releva. L'excès d'adrénaline dans son corps le laissait ankylosé comme un vieillard, et retourna dans la salle de contrôle. Il arriva juste à temps pour voir les projecteurs déclenchés par les détecteurs de mouvement s'éteindre. Il jeta un œil à l'écran montrant le haut de la colline, et vit les derniers visiteurs du Dogan qui s'allumaient entre les bras gités. Cette fois-ci, les cactus ne bougèrent pas. Ils avaient visiblement retenu la leçon. Jake regarda Slightman et Andy s'éloigner, avec un amusement amer devant la différence de taille entre eux. Quand son père croisait un type et son chien dans la rue, il ne pouvait pas s'empêcher de dire « qu'ils montent un spectacle tous les deux ». C'était le mieux que pouvait faire Elmer Chambers en matière de blague. Quand ce duo-là fut hors de sa vue, Jake baissa les yeux vers le sol. Ni poussière, ni trace. Il aurait dû s'en rendre compte en rentrant. En tout cas, Roland s'en serait rendu compte. Roland aurait tout vu. Jake voulait partir, mais se força à attendre. S'il voyait s'allumer les projecteurs derrière eux, ils en déduiraient probablement qu'il s'agissait d'un chat des roches, ou peut-être ce que Benny appelait un armadillo. Mais il ne pouvait se satisfaire d'un probablement. Pour passer le temps, il passa en revue les écrans de surveillance, dont bon nombre portaient la marque Industries Lamerck. Il reconnut aussi des logos familiers comme GE ou IBM, plus un qu'il ne connaissait pas. Microsoft. Tous ces gadgets étaient estampillés « fabriqués aux États-Unis ». Les produits Lamerck, non. Il était presque sûr que certains des claviers qu'il voyait, il y en avait au moins 2 douzaines, contrôlaient des ordinateurs. Quelle autre sorte de gadget y avait-il là-bas? Combien était encore en état de fonctionner? Y avait-il des armes stockées? Sans savoir pourquoi, il se dit que la réponse à cette dernière question était non. S'il y avait eu des armes autrefois, elles avaient sans doute été confisquées, sans doute par Andy, le robot messager, nombreuses autres fonctions. Il estima enfin qu'il n'y avait plus de danger immédiat, à condition de se montrer extrêmement prudent, de chevaucher en silence jusqu'au fleuve et de prendre 1000 précautions à l'approche du Rocking Bee. Il était presque à la porte quand lui vint une autre question. Y avait-il un enregistrement de sa visite au Dogan? Otte et lui apparaissaient-ils sur une vidéo? Il examina une nouvelle fois les écrans, surtout celui de la salle de contrôle. Otte et lui étaient de nouveau à l'image. Vu l'angle élevé de la caméra, n'importe qui pénétrant dans la pièce serait apparu à l'image. « Oublie ça !» lui conseilla le pistolero dans sa tête. « Tu ne peux rien y faire, alors oublie. Si tu commences à essayer de fouiner, c'est là que tu vas laisser des traces. Peut-être même déclencher une alarme. » Ce fut l'idée de déclencher une alarme qui l'emporta. Il prit Otte dans ses bras, autant pour se réconforter que pour autre chose, et se tira de là. Son poney était toujours exactement là où Jake l'avait laissé, broutant rêveusement les buissons au clair de lune. Il n'y avait pas d'empreinte sur le sol dur, mais Jake constata qu'il n'en laissait pas lui-même. Andy aurait sans doute craquelé la croûte poussiéreuse en passant, mais pas lui. Il n'était pas assez lourd. Le pas de Benny non plus, sans doute. « Laisse tomber. S'ils avaient senti ta présence, ils seraient revenus. » Jake se dit que c'était vrai, ce qui ne l'empêchait pas de se sentir comme boucle d'or sortant en catimini de la maison des trois ours. Il ramena son poney sur la route du désert, puis enfila le poncho et glissa Otte dans la grande poche avant. En montant en selle, il cogna Otte contre le pommeau.
« Ouch, aké !»
glapit Otte. « Suffit, petit bébé !» dit Jake en faisant pivoter sa monture vers le fleuve. « Il faut se taire maintenant. »«
Te taire !»
acquiesça Otte en lui adressant un clin d'œil. Jake passa les doigts dans la fourrure épaisse du bafouilleux et le gratouilla à l'endroit qu'il préférait. Otte ferma les yeux, tendit le cou de manière presque comique et sourit. Quand ils atteignirent la rivière, Jake mit pied à terre et scruta les alentours, devant et derrière lui. Bien qu'il ne vit rien, il sentit son cœur battre la chamade pendant toute la traversée. Il ressassait ce qu'il essaierait de répondre au pas de Benny si ce dernier l'interpellait pour lui demander ce qu'il faisait dehors au beau milieu de la nuit. Rien ne lui venait. En cours d'anglais, il avait presque toujours obtenu d'excellentes notes à ses compositions, mais il se rendait compte maintenant que la peur et l'imagination ne faisaient pas bon ménage. Si le pas de Benny l'apercevait, Jake serait fichu. C'était aussi simple que ça. Mais personne ne l'interpella, ni au passage de la rivière, ni sur le chemin du Rocking Bee, ni quand il dessella le cheval et qu'il le bouchonna. Le monde n'était que silence, et Jake n'en demandait pas plus. 13. Quand Jake fut de nouveau allongé sur sa couchette et qu'il eut remonté les couvertures sous son menton, Otis sauta sur le lit de Benny et se coucha en rond, la truffe sous la queue. Benny grogna dans son sommeil profond, tendit la main et fit une caresse sur le flanc d'Otis. Troublé, Jake resta un moment à regarder le garçon endormi. Il aimait bien Benny. Il était franc. Il savait s'amuser, mais ne rechignait pas à travailler dur quand il y avait des corvées à faire. Il aimait le rire de Benny qui faisait des tyroliennes quand il trouvait quelque chose drôle, et aussi le fait qu'il se ressemblait sur tellement de points, et jusqu'à ce soir, Jake aimait bien le pas de Benny aussi. Il essaya d'imaginer comment Benny le regarderait quand il découvrirait, premièrement, que son père était un traître, et deuxièmement, que c'était son ami qui l'avait dénoncé. Jake se dit qu'il supporterait la colère, mais pas la souffrance.
Tu penses que ça sera qu'une question de souffrance? Un peu de souffrance, c'est tout? Tu ferais bien y réfléchir à deux fois. Il n'y a pas beaucoup de sécurité dans le monde de Benny Slightman. Et là, le sol va s'ouvrir sous ses pieds. Tous ses repères vont s'écrouler. C'est pas ma faute si son père est un espion et un traître.
Mais ce n'était pas non plus celle de Benny. Et si on demandait à Slightman, il répondrait probablement que ce n'était même pas sa faute à lui qu'on l'y avait forcé. Et Jake devait bien reconnaître que c'était presque vrai. Complètement vrai, même, du point de vue du père. Mais qu'avaient donc les jumeaux de la Cala qui fut si précieux pour les loups? Quelque chose dans leur cerveau, de toute évidence. Une enzyme ou une sécrétion particulière que ne produisaient pas les enfants uniques. L'enzyme ou la sécrétion responsable de la fameuse télépathie gémellaire. Quoi que ce fût, il pouvait le prendre chez Benny Slightman parce que Benny Slightman n'avait que l'apparence d'un enfant unique. Sa sœur est morte. C'était pas de peau, pas vrai? Vraiment pas de peau, surtout pour le père qui aimait tant le seul qui lui restait, qui ne supportait pas l'idée de le perdre. Et si Roland le tue? Comment Benny te regardera-t-il, alors? Autrefois, dans une autre vie, Roland avait promis de prendre soin de Jake Chambers, puis il l'avait laissé tomber dans les ténèbres. Jake avait alors cru qu'il n'y avait pas pire trahison que celle-là. Maintenant, il n'en était plus si sûr, non, plus sûr du tout. Ses pensées sinistres le gardaient réveillé pendant un long moment. Une demi-heure environ avant le lever du jour, il finit par sombrer dans un sommeil léger